Alors, bonjour à tous, à toutes. Que le Seigneur vous bénisse. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Mais cependant, pour enchérir, je voudrais dire combien nous sommes reconnaissants à Dieu et à chacun de vous pour votre engagement dans l'œuvre de Dieu au Niger et particulièrement parmi les Gourmandchés. Disons que les Gourmandchés sont sur 4 pays, le Niger, le Burkina, le Togo et le Bénin. Et donc, c'est dans ce contexte-là que nous travaillons. Et vous-même, eh bien, vous serez informés aussi. Si par cas, nous repartons dans un pays, pour le moment, qui n'est pas sécurisé, et comme je l'ai dit à votre pasteur, nous risquons à nous déporter sur le Togo ou le Bénin, non pas que nous allons quitter le travail qui a déjà été fait, mais tout simplement pour pouvoir avoir la libre circulation que, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas sur le Niger. Alors, eh bien, priez pour cela, que Dieu nous garde, nous aide, nous bénisse, et nous prions aussi pour vous. Nous demandons au Gourmandché de prier pour l'église de Sainte-Anne, pour beaucoup de nos frères, nos sœurs, pour les internautes qui écoutent aussi la prédication de l'Évangile ici et qui soutiennent aussi l'église de Sainte-Agne et qui, par voie de conséquence, eh bien, nous soutiennent aussi dans la mission. Tout ce travail d'ensemble fait que le Seigneur est glorifié. Un grand merci à votre pasteur, son épouse, vous-même, et que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Effectivement, nous partons, Dieu voulant, après-demain, mardi matin. Nous serons mardi soir à Niamey et nous allons rester là-bas le temps que, eh bien, nous n'avons pas forcément réparti une date, mis une date en place, mais nous allons rester un certain temps. Vous le savez, je suis à la retraite et je voudrais rester dans une retraite active pendant des années, si le Seigneur le veut. Alors parfois, eh bien, nous rentrerons plus souvent que ce que nous faisions autrefois. Voilà, donc j'aimerais partager avec vous quelques passages. J'ai eu l'occasion de parler à nos frères un samedi matin, et j'aimerais apporter non pas une répétition, mais un supplément à ce qui a été dit. Je me réjouis quand j'entends toutes ces nouvelles de ceux qui évangélisent, et je crois que c'est la part et la vocation de chacun de nous. Alors nous lisons dans Actes chapitre 11, et le verset 19. Voilà, il est question des disciples. Actes 11, 19, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Amen. Prions encore, s'il vous plaît. Seigneur, nous avons tout remis entre tes mains. Nous sommes là des serviteurs, des servantes de Dieu, et nous te demandons, Seigneur, de nous visiter par le Saint-Esprit. Tu sais, Seigneur, quelles sont nos limites, nos faiblesses, mais avec toi, nous voulons proclamer que nous sommes forts et que, Seigneur, ta plénitude, celle du Saint-Esprit, ne nous est pas donnée au compte-goutte, mais, Seigneur, tu veux qu'une effusion nouvelle mette un renouveau dans chacune de nos vies. Seigneur, parle-nous, dis-nous ce que tu veux encore et envoie-nous comme tu as envoyé tes disciples autrefois. Au nom de Jésus, amen. Amen. Voilà, la bonne nouvelle a été proclamée dès l'origine de l'Église, puisque tous les chrétiens qui, plus tard, les disciples ont été appelés chrétiens, ont voulu imiter leur maître, c'est-à-dire Jésus. Et Jésus, Que faisait-il? Il allait de lieu en lieu, de lieu en lieu. Et puis, sur le lac de Galilée, il allait d'un côté, de l'autre, il allait, il revenait. Et tout en allant, eh bien, il rencontrait les âmes perdues, des malheureux, des malades. Et partout, Jésus répandait cette bonne nouvelle, comme quoi il était venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Alors, en imitation, les chrétiens aussi ont compris, je dirais presque même par réflexe, le Seigneur nous a sauvés, nous ne pouvons pas garder cette bonne nouvelle pour chacun de nous. Nous devons être les porte-paroles du Seigneur. Et ces porte-paroles, eh bien, ils l'ont été. Alors j'ai pris ce passage justement pour montrer que cette église d'Antioche, qui est devenue ensuite une église missionnaire qui a éclaté dans le monde, à l'origine, elle a été commencée par le témoignage de personnes qui, audacieusement, malgré tous les problèmes qui pesaient sur leurs épaules, eh bien, ils se sont dégagés de cela en disant « Nous ne pouvons pas nous taire, nous devons dire à tous ceux que nous rencontrons à cause de notre persécution, notre dispersion, la bonne nouvelle. » Et ils l'ont fait. Certains pensaient qu'il fallait encore prêcher qu'aux Juifs. Mais d'autres se sont dit « Nous devons le dire à tous. » Et ils ont commencé à parler aux Grecs et ils ont répandu cette bonne nouvelle à tous et à chacun. Et c'est là que, eh bien, le regroupement de tous ceux qui ont cru à Antioche, c'est là que cette église a été établie. Alors, je dirais au passage, personne n'a pensé qu'il allait fonder ou implanter une église, c'est le Seigneur qui bâtit l'église. Ce qu'ils ont fait, eux, c'est de rendre témoignage à tous les gens qu'ils rencontraient. Et même aujourd'hui, si dans notre monde moderne, on dit qu'il y a des planteurs d'églises, on fait de l'implantation d'églises, c'est pas juste et c'est pas biblique. Nous devons proclamer l'évangile et faire des disciples. Et le Seigneur, ensuite, permet qu'ils se réunissent et c'est là que l'église paraît. Alléluia. Alors, je voudrais justement en arriver à la réalité pour nous qui sommes concernés. Eh bien, je me réjouis de ce qu'il y a des frères, des sœurs qui rendent témoignage. Et si je vous interrogeais à chacun, vous pourriez dire « j'ai trouvé ma raison d'être ». Bien sûr, lorsque j'ai rencontré Jésus, je suis passé de la mort à la vie, il m'a tout donné. Mais depuis que je parle de lui, que j'annonce la bonne nouvelle, j'ai des ailes, j'ai la joie, j'ai du dynamisme et je ne m'ennuie jamais. Parce que tous les jours, comme nous sommes des êtres sociaux, nous rencontrons des âmes. Alors, vous êtes comme ça, si on vous interrogeait. Mais peut-être y a-t-il des personnes, des frères et sœurs, qui jusqu'à maintenant se taisent, ne disent pas la bonne nouvelle, n'osent pas témoigner. Il y a parfois le risque de l'échec, en se disant « mais moi je n'ose pas témoigner parce que je ne sais pas quoi dire » ou même « je l'ai eu fait parfois » et je n'ai pas rencontré de succès. Vous savez, si on va plus haut, Jésus n'a pas toujours, lorsqu'il a parlé, il n'a pas toujours gagné les âmes à sa cause. Il y a des gens qui ont été rebelles. Il n'y a pas toujours eu du succès. Il a même dit en pleurant que Jérusalem, il a tellement voulu rassembler les âmes, mais ils n'ont pas connu le temps où le Seigneur leur parlait. Donc, il ne faut pas que vous puissiez dire « je ne peux pas » ou « je n'ai pas de succès », mais parlez de Jésus. Dites votre témoignage, racontez la bonne nouvelle. De toute façon, c'est votre vocation. Ce n'est pas la vocation de quelques-uns, et très juste et très bien que certains se soient mis en groupe pour aller témoigner dans la ville, auprès des étudiants, auprès d'autres personnes, mais il y a aussi ce témoignage qui est individuel, l'évangélisation personnelle. Ne dites pas que vous ne pouvez pas, vous pouvez. Voyez-vous, la parole de Dieu dit que le semeur, il est sorti, s'est mis à semer. Il ne s'est pas interrogé pour savoir quelle était la qualité du terrain, il n'est pas allé voir un ingénieur agronome, mais il a répandu la semence. C'est vrai que Un terrain ressemblait à un chemin, mais il l'a fait quand même. Un autre ressemblait à un terrain bien rocailleux, il a répandu la semence. Un autre terrain était chargé d'épines, il a mis la semence. Et puis en avançant, il a trouvé le bon terrain. Et le Seigneur nous dit beaucoup de choses par cette parabole. Mais ce qu'il veut nous dire, c'est que nous ne devons pas considérer non plus les terrains, les êtres humains, en se disant, lui, quand je le vois, est-ce qu'il va vraiment se convertir? Entendez-le parler, voyez ce qu'il fait. Ne considérons pas tout cela. Il dit, celui qui veut semer, s'il considère les nuages, le vent, il ne sèmera jamais. Ne considérons pas tout cela, mais parlons de Jésus, parce que la parole de Dieu, c'est une puissance. Amen. Je me souviens une fois d'être à rentrer dans un lieu, on faisait une évangélisation, et je n'avais pas rencontré le Seigneur depuis, enfin j'avais rencontré le Seigneur depuis très peu de temps. Et voilà qu'il entre un homme qui avait été invité par un prospectus, Jésus guérit les malades, et il rentre et puis il voit personne, si ce n'est moi, qui avait fini de distribuer les prospectus, et voilà qu'il me dit, où est le monsieur qui guérit? Ah, je lui dis, il n'est pas encore arrivé, je lui dis comme ça, il n'est pas encore arrivé, le prédicateur n'était pas arrivé. Mais je lui dis, c'est pas le monsieur qui guérit, c'est Jésus. Ah, il a dit, moi, j'ai mal à ma cheville. Il avait renversé son tracteur, et peu ça l'est fallu, mais cependant, il s'était tordu la cheville, il avait une cheville qui était enflée, il avait mal, et il voulait que le guérisseur le guérisse. Alors, il m'a dit, eh bien, puisqu'il n'est pas là, le monsieur, je m'en vais. Je lui ai dit, attendez, monsieur. Vous savez, il y avait un homme qui était paralysé depuis 38 ans, et puis Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? Alors, c'est cela, ce qui est écrit dans le prospectus. Et alors que je lui racontais comment Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche, cet homme me dira, eh bien, pendant que vous parlez, je sens en moi que je n'ai plus de douleur. Et il s'est mis à marcher, là, dans le lieu où l'on devait faire la réunion. Il a été guéri, tout simplement, par la parole. Et vous savez, quand on annonce la parole, on annonce Jésus. On annonce la toute-puissance de Jésus. Alors, n'oubliez pas que personne n'est exempt de rendre témoignage et tout le monde est en possession d'une parole d'autorité, de pouvoir, c'est la parole de Jésus. Voyez-vous, la parole nous montre que nous devons avoir une vision chacun d'entre nous. La vision laquelle? Eh bien, c'est que tous les êtres sont pécheurs. Il n'y a pas un seul juste. Tous sont pervertis et marchent sur le chemin qui les conduit au destin éternel de l'enfer. Et cette vision doit nous saisir, parce que qui pourra leur enseigner, leur dire et leur parler de Jésus, si ce n'est chacun de vous? Et on va y venir, dans quel contexte vous êtes, vous, et que nous ne sommes pas. Même les pasteurs ne sont pas là où vous êtes, n'évoluent pas là où vous évoluez. Et chacun doit parler de Jésus pour sortir les âmes du chemin de l'enfer. Le chemin de l'enfer, c'était notre part, à chacun de nous. Je ne sais pas comment ça vous est arrivé, mais si je disais, eh bien, qui a été amené à Jésus à cause du témoignage de quelqu'un, vous allez être nombreux. J'en suis certain. Alors, aujourd'hui, eh bien, faites tout pour sauver les âmes de l'enfer. Délivre ce qu'on traîne à la mort, ce qu'on va égorger. Sauve-les. Si tu dis, ah, nous ne savions pas, chacun d'entre nous avons cette lourde responsabilité, cet ordre de mission où le Seigneur dit « Allez et annoncez la bonne nouvelle à toutes les nations, c'est-à-dire à toutes les créatures de toutes les ethnies du monde. Ils sont perdus, mais il n'y en a qu'un qui puisse nous sauver. Je sais qu'aujourd'hui, on est dans une époque où on voudrait faire de l'amalgame, du syncrétisme, toutes sortes de rajouts pour dire, eh bien, quand même, s'il est sincère dans sa croyance, laissons-le tranquille. On ne peut pas non plus dire autre chose. Eh bien, pourtant, la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a qu'un seul nom qui a été donné parmi les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné en rançon pour nous tous. Et nous savons que si quelqu'un va au paradis, eh bien, c'est grâce à Jésus. Il n'y a personne d'autre. Et même si on disait, tiens, mais il n'a jamais entendu parler de Jésus, donc l'ignorance ne permettra-t-elle pas qu'un jour cette personne puisse rentrer malgré tout au paradis parce qu'elle n'y peut rien? Elle a été ignorante. Eh bien, si ça devait être comme ça, taisons-nous tous, fermons tous la Bible, fermons les églises, n'évangélisons plus, et dans quelques générations, tout le monde ira au paradis parce que personne n'a parlé, on les a laissés dans l'ignorance. Ben, c'est absurde. Nous le savons que même l'ignorance fait que les gens iront en enfer. Et c'est pourquoi prêchons Jésus-Christ. Prêchons celui qui est mort sur la croix pour nous pardonner et qu'il n'y a personne d'autre. J'ai l'occasion de parler avec bien des personnes d'autres religions, sans vouloir faire de polémique. Et souvent, il arrive qu'on tombe tellement sur des sujets qui semblent très convergents avec le vrai christianisme que certains me disent, eh bien, voyez qu'on est d'accord sur ceci, sur cela. Mais toujours est-il que sitôt que on voudrait tomber ami avec les gens, vient quelque chose qui peut diviser, ne pas les laisser tranquilles, c'est que quand on parle de Jésus. Ah, quand on parle de Jésus crucifié sur la croix, ressuscité pour nous sauver, eh bien certains disent, mais nous aussi, on a un prophète, nous aussi, on a un gourou, nous aussi, on a une religion, et certains se renferment derrière une religion. Parlons de Jésus. Il est venu chez moi quelqu'un dans la semaine, c'était un voisin, un agriculteur, et il m'a dit, sitôt que je lui ai parlé, je lui ai dit, est-ce que vous avez eu l'occasion de lire la Bible? Il m'a dit, non, j'ai été enfant de cœur quand j'étais enfant. Donc c'était tout ce qu'il pouvait connaître. Et je lui ai parlé de Jésus, et il a été assez surpris. Et il m'a dit, mais on m'avait dit dans la région où vous êtes que vous étiez témoin de Jéhovah. J'ai dit oui, les gens, parce que on n'est pas avec la religion qui prévaut dans notre société, tout ce qui n'est pas de cette religion, tous les autres, c'est une secte. J'ai dit non, je ne suis pas témoin de Jéhovah. Non, je n'ai pas une religion, mais j'ai cru à Jésus. Je lui ai demandé de me sauver et il a pardonné mes péchés. Il est parti avec une Bible, que Dieu le bénisse. Parlons de Jésus. Vous savez, nous avons cette motivation, cette responsabilité, c'est de parler à tout le monde. L'autre jour, quelqu'un m'appelle au téléphone. Ma femme fait signe, attention, numéro privé, c'est des pubs. Effectivement, je tombe, allô, je suis Monsieur Marshall et je voudrais vous parler d'une assurance, prévoyance, tout ça. Et donc, j'ai cru même que c'était un magnétophone parce qu'il n'arrêtait pas de parler. Mais est-ce que c'est l'homme qui me parle ou c'est... Et je l'ai laissé parler longtemps. Et comme il disait M. Bordeneuve à chaque 3 secondes, c'est vrai que notre nom, c'est la musique la plus douce qu'on puisse entendre sur la terre. Donc, M. Bordeneuve. Bon. Et puis à un moment donné, j'ai dit, Monsieur Marshall. Il a été surpris. J'ai dit, est-ce que vous aussi, vous avez pensé à la prévoyance? Il m'a dit, monsieur, alors ça, vous êtes le premier client à me parler comme ça. Et là, je lui ai annoncé l'évangile. Parce que il me disait, monsieur Bordeneuve, il faut quand même être prévoyant aujourd'hui. Et donc, j'en ai profité de lui parler de Jésus. L'autre jour, je reçois un spam. Bon, c'était pas trop réconfortant, mais je l'ai ouvert. Denis, pensez à vos obsèques. Voilà. Donc, pour 30 euros par mois, eh bien, vous allez vous assurer, vos enfants, ceux qui vivront après vous n'auront aucun problème. Donc, je clique « Répondre ». Il y a bien longtemps que j'ai pensé à mes obsèques et je leur ai rendu témoignage de Jésus. Je ne sais pas, ils m'ont pas encore répondu. Mais nous avons besoin de parler de Jésus à tous, parce que les gens ignorent. Certains ils disent « Ah, j'y ai pas pensé », d'autres ils disent « Il y en a un autre qui m'a dit, eh bien, écoutez, alors que vous me dites « Est-ce que j'ai une Bible ?» Il est venu la semaine dernière chez moi, c'était un camarade d'école. On avait joué en CE2 dans la même cour, on ne s'était plus revus depuis 45 ans. Il vient chez moi, ah j'ai dit « Merci Seigneur ». Et je lui ai parlé du Seigneur. Il a été tellement touché et il m'a dit « C'est vrai que jamais de ma vie, il a 65 ans, jamais de ma vie j'ai lu une Bible. Si ce n'est que de temps à autre, je suis passé dans les hôtels ». Et j'avais vu une Bible dans les hôtels, c'est certainement les Gédéons. Donc là, il y a un bon travail qui se fait au passage. Et voyez-vous, nous avons des possibilités. Et je crois, parlons de Jésus. Vous allez voir votre joie, votre paix, votre bonheur. Et je vais y venir. Votre capacité de vous sanctifier et de rechercher le baptême du Saint-Esprit. Parce que vous allez voir que c'est notre vocation à chacun d'entre nous. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que parler de Jésus, c'est aussi aimer son prochain. Les disciples de Jésus se reconnaissent. L'arbre se connaît à son fruit, l'a dit Jésus. Mais ils se reconnaissent surtout en ce qu'ils ont de l'amour. L'amour du prochain. On est dans une société sacrément individualiste, où chacun regarde son nombril, ses propres intérêts, que tout se passe bien pour lui, et tant pis pour les autres. Mais finalement, nous, on n'a pas été enseignés comme ça. Quand le Seigneur nous a sauvés, il a dit « Faites aux autres ce que vous aimeriez que l'on fasse pour vous ». Alors, bien sûr, on est sauvés, bien sûr, on connaît le Seigneur. Mais maintenant, si on ne le connaissait pas, on serait bien content que quelqu'un vienne nous parler, vienne prier pour nous, et nous dire la bonne nouvelle pour nous faire échapper à la route de l'enfer et nous permettre d'aller au paradis. Aimer son prochain, c'est la part de chacun d'entre nous. Et si quelque part, eh bien, vous sentez que vous ne pouvez pas arriver à construire cet amour en vous, ne cherchez pas. Naturellement, je n'en ai pas. Naturellement, vous n'en avez pas. Vous avez des amitiés passagères qui sont tellement fragiles. Mais quand l'amour agapé, l'amour du Saint-Esprit vient dans notre cœur, on oublie souvent tous nos problèmes, mais on pense à ceux qui sont perdus et nous leur parlons. Quand je regarde le contexte dans lequel nous avons fait la lecture, ils étaient dispersés. Il y avait des persécutions, les chrétiens. Ils ont laissé leur maison, leur famille. Ils étaient peut-être tout seuls. De quoi pensons-nous quand il nous manque un petit quelque chose à nos problèmes, à nos soucis? Eux, ils ne pensaient même pas à tout ce qu'ils étaient en train de perdre et même ils risquaient à être maltraités. Ils parlaient de Jésus. Et c'est comme ça qu'à l'époque, on a dit, ils ont rempli le monde de la connaissance de Jésus. Ils avaient rempli Jérusalem de la connaissance de Jésus parce qu'ils s'oubliaient eux-mêmes, ils aimaient leur prochain. Si nous manquons d'amour, si nous pensons que c'est surréaliste ce que nous entendons aujourd'hui, mettez-vous à genoux et dites « Seigneur, donne-moi ton amour ». Et par le Saint-Esprit, il le fera. Vous ne pouvez pas dire que vous allez le créer, vous n'êtes pas une source d'amour, mais l'amour nous est donné et répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit et Allah, nous pouvons aimer notre prochain. Alléluia. Ce qui nous motive, vous savez, d'évangéliser aussi, c'est de ne pas chercher de gloire. Parce que, quelque part, quand on parle de Jésus, qu'on fait de l'évangélisation personnelle, personne ne le sait. Personne ne sait. Mais, en réalité, nous cherchons la gloire du Seigneur. Nous cherchons qu'il soit heureux et glorifié. Chacun d'entre nous, eh bien, nous devons être comme cela. Ne pas chercher de travailler sous la rampe des projecteurs, d'être adulés par les uns, par les autres. Oh, regardez le frère, la sœur, ils amènent des âmes au Seigneur. Délaissons tout cela. Ne nous permettons pas de profiter de Christ crucifié au Golgotha pour nous faire un nom dans ce milieu, dirais-je. Mais cherchons la gloire du Seigneur. Il veut que toutes les âmes soient sauvées. Il veut que tous les êtres humains soient sauvés. Peut-être vous n'irez pas trop loin pour parler de Jésus, mais vous avez des personnes à côté. Peut-être d'autres, en entendant qu'il faut parler de Jésus à tout le monde, sentent un appel et vont quitter les frontières, vont aller très loin pour porter la bonne nouvelle de Jésus. Eh bien, faites-le, en tout cas, mais faites-le pour la gloire du Seigneur. Nous n'avons aucune gloire, nous-mêmes, d'être depuis des années dans des pays où il y a des grands besoins. Nous n'avons aucune gloire, mais c'est une gloire que le Seigneur donne en se voulant bien se servir de personnes incapables, mais qu'il leur donne tout l'amour, toute la foi et tout le désir et toute la vision pour sauver les autres. Amen. Et puis, vous savez ce qui peut nous motiver, je le disais tout à l'heure, c'est la vie du Saint-Esprit en soi, mais on a chanté ce matin « Ce que mon cœur désire, c'est le feu, c'est le feu ». Pourquoi ? Eh bien, les premiers disciples étaient tellement emballés, dirais-je, parce que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit était tombé sur eux et les a remplis. Et puis quand à un moment donné, il y avait des persécutions, qu'ils étaient un peu découragés, ils ont prié tout à nouveau. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ce qui doit nous motiver, c'est d'être remplis du Saint-Esprit pour évangéliser. C'est incontournable. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins, ici, là, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, si vous cherchez à être baptisé du Saint-Esprit, parce que vous êtes dans des églises où il y a le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une bonne motivation. La bonne motivation, c'est « je veux être plein de feu, rempli de l'Esprit, pour pouvoir être, Seigneur, ton témoin. » Amen. Et c'est là que le Saint-Esprit vient nous remplir, parce que en réalité, le Seigneur l'a dit qu'il nous remplirait de son Saint-Esprit pour porter sa parole jusqu'aux extrémités de la terre. Alors souvent, on dit, tiens, je voudrais avoir une victoire sur telle et telle situation dans ma vie, dans mon caractère, dans mon être intérieur. Oui, c'est d'accord, le Seigneur veut donner la victoire. Mais n'est-il pas vrai que quand on a cette vision de servir le Seigneur, d'avoir cette vocation de dire aux autres la bonne nouvelle, le Seigneur nous remplit du Saint-Esprit et il fait tomber les chaînes. Il fait tomber les problèmes. Le Saint-Esprit est capable de prendre notre cerveau et d'enlever tout ce qui le ronge, tout ce qui le rend anxieux. Le Saint-Esprit va nous orienter plutôt vers l'amour du prochain et le désir de parler. Alors, frères et sœurs, ayez soif et soyez remplis du Saint-Esprit. Je ne peux pas tout dire ce matin de ce qu'il va faire dans votre vie, mais comment vous allez être projetés en avant pour le servir, parce que en réalité, initialement, vous cherchez à être plein du Saint-Esprit pour servir le Seigneur jusqu'à ce qu'il vous prenne ou jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Évangéliser, frères et sœurs, c'est aussi prier. Dans Luc 11, 21, le Seigneur donnera une image et il dira quelle est la personne qui pourra lier l'homme fort et lui prendre tout ce qu'il a. Et la parole de Dieu dit dans un autre passage que il faut qu'il y ait un homme plus fort que l'homme fort. Et c'est là qu'on peut lui prendre ce qu'il a. Eh bien, la parole de Dieu nous montre exactement que le monde gît sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance de Satan. Et ce n'est pas une sinécure d'évangéliser. Parce qu'on est heurté à bien des problèmes. et devant monsieur, madame, tout le monde qui semble vivre dans la normalité, parfois il y a des esprits mauvais qui les tiennent. Et je ne vous annonce rien de nouveau en vous disant que Jésus chassait beaucoup d'esprits impurs. Il allait de lieu en lieu, beaucoup, beaucoup. Et quand le Seigneur envoie les disciples, il dit, vous chasserez les démons, vous guérirez les malades, vous purifierez les lépreux, vous ressusciterez les morts. Et puis quand le Seigneur ressuscité dira, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui ont cru, eh bien, en mon nom, ils chasseront les démons. Ce qui veut dire, frères et sœurs, priez. Priez parce que, au nom de Jésus, c'est lui, Jésus, le plus fort. C'est lui qui a la victoire. Et bien que je ne veux pas aujourd'hui ni tomber dans un extrême ni l'autre, il y a tous ceux qui avaient développé toute la théorie de la démonologie, voyaient des démons partout. Et il y a ceux qui, pour prendre le contre-pied, ont dit « il faut plus voir de démons nulle part » et « Satan, ça n'existe pas ». Il faut le juste milieu. Le Seigneur en a parlé. Nous travaillons nous-mêmes, là-bas, parmi les gourmanchés, dans des milieux hostiles. Ce n'est pas facile. Il y a la sorcellerie, il y a la magie, il y a des êtres qui vivent liés, qui nous disaient « mais j'étais constamment tourmenté, où j'avais des esprits de haine ». Et puis le Seigneur Jésus les a délivrés. Et ensuite, ils ont pu accepter l'Évangile. Aujourd'hui, dans notre société, c'est la pornographie. C'est toutes sortes de dégradations immorales, des addictions à l'alcool, à la drogue, et à toutes sortes de dérives qui mettent les êtres humains plus bas que l'animal. Et derrière tout cela, il faut être armé. Et la parole de Dieu dit que ce n'est pas avec les armes charnelles que nous devons confronter les mauvais esprits qui sont dans les êtres humains, mais c'est avec les armes de Dieu, puissantes par sa vertu, et qui renversent les forteresses, et qui amènent toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Alors je dis cela pour tout simplement répondre avec Jésus à ses disciples qui disaient « Mais pourquoi on n'a pas pu chasser l'esprit mauvais de cet homme lunatique ?» Et Jésus dira que cette espèce-là ne sort que par la prière et par le jeûne. Et vous savez, si nous voulons mettre une percée dans l'évangélisation à Toulouse, chez nos voisins, dans les villages, notre pays et dans le monde, eh bien nous ne devons pas mettre le déni sur des réalités des esprits mauvais qui sont là de toutes parts et qui poussent les uns les autres à faire des choses dont ils n'ont pas pu se contenir. Mais pendant que le peuple prie, pendant que vous priez des fois des groupes de 3, 4 et que vous êtes ensemble, un, pour demander une chose, eh bien le Seigneur agit et il arrive souvent que quand on revient sur le terrain, on trouve des âmes disposées. Oui, ils étaient dans le mal, ils étaient dans la fange du péché, mais voilà qu'ils nous écoutent et voilà que nous leur traduisons la parole par laquelle ils peuvent être sauvés. Alléluia. On ne peut pas les juger. Nous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois sans Dieu. Nous vivions dans les ténèbres comme des insensés, des dévoyés. Nous étions pour beaucoup comme cela. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, nous a fait grâce. Et Dieu fera grâce à tous les perdus. Mais cependant, prions, prions et revêtons-nous des armes puissantes que le Seigneur nous a confiées. Alléluia. Les âmes sont dans des grands besoins. Je le disais, toutes sortes de dérives, de péchés, mais il y a aussi le chômage, il y a aussi des maladies, il y a aussi des religions, il y a l'ésotérisme qui souvent tient les gens parce que en recherche du spiritualisme, eh bien, les âmes sont perdues dans ce qui a pris autorité sur elles. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et les gens sont esclaves. Mais nous avons le pouvoir d'évangéliser et de les délier et de les délivrer. Et je voudrais ne pas rater la conclusion et vous dire, frères et sœurs, eh bien, évangélisons. C'est simple. Après tout, je crois que beaucoup de choses nous sont passées par la tête pour nous empêcher de voir notre vocation initiale, c'était d'être des serviteurs, des servantes de Dieu, remplis de l'Esprit, pour pouvoir porter l'Évangile au monde entier. Je ne sais pas tout ce qu'il nous est passé par la tête, mais quand je reviens à la source, à l'Évangile, aux Actes des Apôtres, il semble que l'évangélisation, c'était un réflexe. Ça ne faisait ni un ni deux dans la tête en se disant « Faites-nous des séminaires sur la formation à l'évangélisation pour nous motiver. » Ce n'était pas ça. Il y avait la plénitude du Saint-Esprit, la conscience de la fange dans laquelle tombaient les gens dans le péché, et ils parlaient, et ils évangélisaient. Que le Seigneur nous donne sa force. Vous êtes une personne unique. Personne n'est vous-même et ne vous ressemblera, ni ne sera là où vous êtes et là où vous évoluez. Et je dis cela pour dire, le Seigneur a préparé pour chacun de nous une œuvre, un ouvrage spécial. Et si vous ne le faites pas, jamais personne ne pourra remplir ce vide. Là, au travail, où vous êtes, le pasteur Go ne peut pas y être, mais vous, vous y êtes, et vous avez l'occasion de parler de Jésus. Oh, peut-être c'est en dehors du service, pendant la pause, pendant le métro, c'est vrai, avoir quelques évangiles dans la poche, ça ne gâte pas, parce que ça nous permet d'avoir un trait d'union pour entrer en matière. Et là, vous pouvez trouver des personnes qui, effondrées, vous raconteront leur détresse, leur histoire. Parlons de Jésus, pardon de Jésus, comme je le disais, même si vous êtes souvent en train de travailler sur les ordinateurs, de naviguer, vous recevez des messages, vous recevez des mails, vous recevez parfois des Skype, eh bien, n'hésitez pas, vous êtes là, la personne unique à ce moment-là qui pouvait permettre à quelqu'un de rencontrer Jésus. Je me souviens une fois, pour une circonstance, j'ai été amené dans un hôpital, et puis voilà que j'étais à la salle d'attente, moi-même j'avais ma nièce qui était en train de se mourir, et puis pendant que j'étais là à la salle d'attente, une personne pleurait. Et je me suis dit, j'ai cru qu'il fallait que je lui porte secours, et je lui ai parlé. Je lui ai dit, « Madame, pourquoi pleurez-vous ? » Elle m'a dit, « Mon mari, eh bien, il est sous oxygène et on va le débrancher parce que c'est fini pour lui. » Et là, à ce moment, j'ai dit, « Mais est-ce que vous voulez que j'aille prier pour lui ? » Parce que je crois qu'il nous faut de l'audace à tous, il faut de l'audace. Elle m'a dit, « Même si vous priez, mon mari est mort. » J'ai dit, « Allons. » Et donc, nous sommes allés à la chambre et pendant que je priais le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus a sorti cet homme du coma. Il y avait à côté sa femme, il y avait le frère à sa femme, un ravissant incrédule. Quand il a vu cela, il s'est converti. Il l'a dit aux autres. Et une quinzaine de personnes se sont converties, sont allées ensuite à l'église. Et je me dis, finalement, où que l'on soit, même si on est touché nous-mêmes par la tristesse, la détresse, le message reste intact. C'est comme un juge qui doit juger une situation. Il faut qu'il soit impartial, même si ça va mal chez lui. C'est-à-dire s'il a des problèmes familiaux, la loi est là. Et nous, c'est pareil, on a des problèmes, on trimballe des fois des difficultés de la vie et tout ça. Mais notre vocation, ce que le Seigneur nous a demandé, c'est d'aller. Et au moment où nous allons, lui aussi peut s'occuper de nos affaires. Alléluia. Évangélisons par notre manière de vivre, frères et sœurs. Ne trahissons pas l'Évangile. Le Seigneur a dit que nous sommes une lettre de Christ écrite. Et c'est vrai que quand le monde regarde une lettre belle à lire, eh bien il dit oui, je reconnais que il y a quelque chose chez vous, quelque chose qui m'interpelle, eh bien, le Seigneur le veut. si on portait de mauvais fruits par cas, eh bien, repentons-nous, changeons de vie et disons, Seigneur, je veux être un témoin, je veux évangéliser partout où tu m'envoies. Seigneur, sers-toi de moi. Et si je voulais vous décrire ce que Jean a vu dans l'Apocalypse, qu'il a vu les gens de toutes les nations et de toutes tribus louer, adorer le Seigneur, eh bien, il faut aussi faire une preuve d'imagination. Tous ceux qui adorent le Seigneur sont des rachetés à qui on est allé dire la bonne nouvelle. Et s'ils allaient vous voir, vous, individuellement, ils vous diraient, tu sais, si je suis là, c'est parce que tu as parlé et j'ai été sauvé. L'autre dira, si je suis là, tu es parti pour traduire la Bible et j'ai pu la lire dans ma langue, j'ai été sauvé. L'autre dira, eh bien, si je suis là, c'est parce que tu avais malgré tout, je l'ai su, beaucoup de travail, mais tu savais fixer un temps où tu disais, je me consacre à l'évangélisation. Tu as pris quelques samedis de repos alors que tu aurais dû rester dans ta famille, mais tu es parti pour évangéliser. Si je suis là, c'est parce que tu as payé aussi le prix. Alors gloire au Seigneur, mais aussi que chacun retrouve sa vocation initiale, que le Seigneur nous envoie. Et pendant notre génération, je crois que nous allons avancer. Nous nous repentons de la lenteur d'avoir répandu l'Évangile dans le monde entier. Nous nous repentons de ce que la moitié presque de l'humanité n'a pas été confrontée encore, eh bien, à l'Évangile intégral. Nous demandons pardon au Seigneur, mais nous avons tous les atouts pour réussir. Cette fois-ci, dans notre génération, avec tous les moyens multiples que le Seigneur a en sa possession et qui nous a donnés, eh bien, répandons l'Évangile pour que, s'il le faut, dans notre génération, on voit le Seigneur revenir parce que sa parole, la bonne nouvelle, a été prêchée au monde entier. Seigneur, aide-nous à vivre, Seigneur, cette vie de témoin. Remplis-nous, Seigneur, du Saint-Esprit et que, Seigneur, ces quelques paroles aient pu servir à permettre à quelqu'un qui ne sentait pas cet engagement être une priorité. Seigneur, tu visites cette âme et par ce moyen, Seigneur, tu l'auras faite lever et elle va gagner beaucoup d'âmes, beaucoup de rachetés lui diront, c'est parce que tu t'es levé et tu es allé que je suis racheté. Seigneur, c'est vrai, à toi toute la gloire. Mais quelle grâce de nous avoir confié une telle vocation. Seigneur, pardon pour l'humanité encore qui n'a pas entendu une fois l'Évangile. Pardon pour tous ceux à qui on l'a trompé sous des appellations à connotation chrétienne. On leur a fait croire qu'ils étaient chrétiens et ne le sont pas. Eh bien, Seigneur, visite-nous et donne-nous la capacité de les voir et de les amener à toi. Au nom de Jésus, Amen.